La Société historique de Montréal et la Fondation Lionel Groulx présentent Nouveau regard sur notre histoire, une émission signée Jean-Charles Désiel. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire avec notre histoire et nos racines sur les ondes de Radio Ville-Marie. Au microphone, Éric Lebel. Au menu ce soir, tout d'abord, la quatrième et dernière partie de l'entrevue que nous accordait généreusement Louis Balthazar, professeur émérite de sciences politiques à l'Université Laval, qui vient de faire paraître son nouvel ouvrage sur le nationalisme québécois. Et en deuxième partie de l'émission, à cette veille de la fête des mères, nous vous présentons une pièce en un acte signée Olivier Mercier-Gouin et intitulé « Une dame, un dimanche ». Il s'agit de la rencontre d'une mère avec son fils. Bonne émission. Alors ce soir, Jean Descarrés, vous poursuivez et même terminez votre entretien avec Louis Balthazar, professeur émérite en sciences politiques à l'Université Laval. Ce soir, il sera question de quoi au juste?
Oui, Éric, ce soir, il va être question des rapports des immigrants et des Autochtones avec ce nationalisme québécois-là. Alors M. Balthazar va nous parler de cette relation qu'il juge être ambiguë. Et on va aussi revenir sur l'épisode du Lac Meech parce que M. Balthazar laisse entendre que cette occasion manquée sous le règne de Robert Bourassa du Parti libéral des années 80, il semble considérer que c'était une occasion manquée de peut-être réaliser la souveraineté ou à tout le moins d'aller modifier le rapport de force entre le Québec et le fédéral.
Alors, voici ce dernier entretien avec Louis Balthazar, interviewé par Jean Descarrés.
Alors, on est de retour en onde avec un professeur, conférencier et auteur, Louis Balthazar. Merci d'être avec nous encore une fois, M. Balthazar.
Ça me fait plaisir.
Écoutez, M. Balthazar, on en a parlé hors d'onde. Vous avez évoqué la relation ambiguë qu'entretient, au fond, le nationalisme québécois dans ses rapports avec les Autochtones et les immigrants. Je voulais savoir, qu'est-ce que vous vouliez dire par là?
Bien, d'abord, avec les Autochtones, ils ont été les grands oubliés de la constitution d'un Canada moderne. On peut parler de l'aliénation des Québécois, de notre minorisation dans le Canada, etc. Mais au moment de l'élaboration d'une constitution en 1867, nous y étions. Et depuis ce temps-là, il y a toujours des Québécois de langue française qui ont joué un rôle à Ottawa. Les Autochtones, eux, ont été complètement mis de côté au moment de la création du Canada moderne. Et notre définition du Québec moderne, notre nationalisme, a mis beaucoup de temps à définir quel rôle a donné aux Autochtones dans notre conscience de nous-mêmes. Et pendant ce temps-là, les Autochtones se définissent toujours comme Première Nation, à juste titre. Et donc, nous ne pouvons les inclure dans la définition de la nation québécoise parce qu'ils ont la prétention et ils constituent des nations, des petites nations, malheureusement pour eux, mais des nations tout de même. Il faut attendre les grandes négociations de la baie James et puis une certaine volonté d'émancipation de la part des Premières Nations pour que là, l'Assemblée nationale du Québec en vienne à les reconnaître tels qu'ils sont, etc. Et aujourd'hui, il y a eu des grands pas de fait. Il faut accorder le mérite à M. Bernard Landry d'avoir signé ce qu'on appelait la paix des braves, là, des accords avec les Cris de la baie James. Mais il n'en reste pas moins que les Autochtones sont très réticents par rapport au nationalisme québécois. Ils s'opposent toujours à quelques projets de souveraineté du Québec que ce soit, même si, traditionnellement, les Français, bien sûr, ont eu leur faute à l'endroit des Autochtones, mais beaucoup moins que les Anglais. Et donc, même si traditionnellement, nous avons beaucoup collaboré avec les Autochtones, il reste que, à l'heure actuelle, les rapports demeurent tendus. On n'a pas établi encore de façon assez claire quelle serait la position d'un Québec souverain à l'endroit des Autochtones.
Quant aux immigrants...
Quant aux immigrants, on peut en parler encore davantage parce que notre société doit de plus en plus à l'immigration. Donc, c'est une question à laquelle il fallait s'attaquer. Nous l'avons fait graduellement à partir de la fin des années 60, quand le taux de natalité des Québécois a diminué, quand on s'est rendu compte qu'il était important de s'occuper des immigrants et de chercher à les intégrer. Vous savez, avant ça, fort de notre majorité et de la revanche des berceaux, du haut taux de natalité, on acceptait volontiers que la plupart des immigrants se joignent à la communauté anglophone au Québec. Et donc, à partir de la fin des années 60, on crée un ministère de l'immigration et peu à peu, avec des accords signés avec le gouvernement fédéral, le Québec a acquis un pouvoir considérable sur l'immigration. La seule chose que le Québec ne fait pas, ce qui est énorme, c'est d'accorder la citoyenneté aux nouveaux venus et aussi d'avoir le dernier mot sur l'admission des réfugiés. Mais pour le reste, le Québec recrute les immigrants lui-même, peut établir des quotas, les choisit, les accueille et encadre leur vie dans une certaine mesure. Donc, la présence nombreuse des immigrants chez nous rend plus impérative que jamais l'acceptation totale de notre nouvelle définition de nous-mêmes. Nous sommes devenus des Québécois, nous ne sommes plus des Canadiens français. Et les Québécois, surtout depuis la charte de 1975 et même celle de 1977, la charte de la langue française, ils font partie de la nation au même titre que nous. Et je dis, j'aime souvent rappeler que le Québec moderne repose sur l'équilibre entre ces deux chartes. D'une part, on dit aux immigrants, vous avez tous les droits et libertés que nous avons, sans considération d'origine ethnique, de religion, de langue, de quoi que ce soit. Mais en même temps, la charte de la langue française vous demande d'accepter que la langue française soit la langue officielle, la langue commune, la langue de l'espace public au Québec. Donc, ceci est difficile parce que tout en nous disant Québécois, il nous arrive de nous penser encore comme Canadiens français. Et nous avons tendance à blâmer les immigrants de ne pas s'intégrer assez bien, assez rapidement à notre société. Et de croire, même à l'occasion, que c'est nous qui faisons tout le chemin pour leur accorder des droits et les accueillir et qu'eux ne font rien pour s'intégrer. Ce qui est tout à fait faux. Ça n'est pas vrai. Les immigrants, qui que ce soit qui émigre, fait une chose très difficile, hein, qui amène une transformation profonde de la vie. Émigrer, c'est un geste très difficile pour qui que ce soit, et il n'est pas vrai de dire qu'un immigrant ne fait pas des efforts considérables pour changer ses habitudes, son mode de vie quand il arrive à l'étranger.
Alors, M. Balthazar, de retour maintenant sur la question nationale, vous écrivez dans votre livre « Il suffit d'un frêle espoir pour leur redonner confiance en d'honnêtes porte-parole du fédéralisme canadien ». Est-ce que les Québécois ont la mémoire courte?
Oui, les Québécois, au fond, sont pas une population radicale. Hein, il faut partir de ça. Nous vivons confortablement, nous avons, Dieu merci, nous sommes gâtés, avons un des meilleurs niveaux de vie sur la planète. Donc, un peuple comme ça, qui vit relativement heureux, n'a pas envie de poser des gestes radicaux. Donc, je pense que dans l'âme de tout Québécois, si nationaliste soit-il, il y a toujours ce souhait indécrottable que ce serait mieux si on pouvait concevoir une union canadienne dans laquelle, pour paraphraser Yvon Deschamps, on aurait un Québec fort dans un Canada uni ou un
Québec indépendant
dans un Canada uni. Ça n'est pas... Bon, on peut s'en moquer, mais c'est qu'au fond, le Québécois voudrait que le Québec soit mieux reconnu, exerce davantage des éléments de souveraineté, mais il n'a pas envie de chambarder les choses trop. Il croit que l'Union canadienne a ses mérites. Nous travaillons avec le reste du Canada depuis assez longtemps. Nous avons beaucoup d'institutions canadiennes, des habitudes de collaboration avec le reste du Canada. Et on espère toujours qu'il soit possible de maintenir ça.
Parce que quand on regarde l'effort qui a été fait de révision constitutionnelle des années 60, 70, l'échec de Victoria, ensuite de ça, le référendum qui a été perdu en 80, les réclamations du Québec qui ont finalement été tassées à la suite du rapatriement de la Constitution, on regarde 30-40 ans de négociations constitutionnelles, puis on se rend compte que ce que le fédéral appelle des vieilles chicanes n'ont jamais été résolues, au fond.
Oui. 50 ans, sur papier, on peut monter un dossier vraiment remarquable. Et intellectuellement, rationnellement, on se dit, il n'y a qu'une seule conclusion. Ce pays marche mal, il n'est pas le nôtre. Nos aspirations ont été déboutées, donc il faut en sortir. Ça, c'est l'idée. En pratique, malheureusement, c'est pas toujours les idées qui mènent le monde. En pratique, nous ne sommes pas, il faut bien l'admettre malgré tout, profondément aliénés. Il y a une certaine vérité dans l'argumentation de ceux qui disent « Mais écoutez, en dépit de tout ça, regardez les progrès qui ont été accomplis au Québec. Vous avez une culture qui se manifeste plus que jamais partout dans le monde. » Et quoi qu'en disent nos poètes, nos chansonniers, nos militants souverainistes, nous perdons peu d'heures de sommeil parce que le Québec n'est pas indépendant. Ça n'est pas encore, ça ne fait pas mal. Ça n'est pas une situation d'aliénation profonde, de souffrance, d'oppression comme celles qui ont été vécues par d'autres peuples. Donc, oui, nous avons beaucoup de raisons de penser que le Canada ne fonctionnera jamais comme on souhaiterait qu'il fonctionne, mais en même temps, la vie n'est pas à ce point misérable pour nous que nous disions, comme on le dit souvent dans des situations désespérées, il n'y a rien à perdre, hein, on peut tout essayer. Ça n'est pas notre situation, il faut bien l'admettre.
Je le disais dans un autre segment, vous étiez assez critique, dans le fond, des référendums de 80 et de 95. Avec le recul, même dans le livre, vous semblez plutôt suggérer, comme occasion manquée, les suites de l'accord du Lac-Mégantic avec Robert Bourassa.
Oui, c'est vrai, parce que à ce moment-là, l'idée de souveraineté était très forte, même chez beaucoup de libéraux. Donc, si Bourassa avait continué comme il s'y était engagé, de refuser de dialoguer avec toutes les provinces réunies, mais de dialoguer uniquement avec le partenaire fédéral. Et s'il avait fait le référendum qui était dans la loi sur la souveraineté, sûrement que Robert Bourassa, quand on le connaît, aurait eu recours à une question très molle et qui aurait laissé des échappées, des possibilités de négociation d'une union canadienne. Mais à ce moment-là, l'atmosphère était telle que le Parti québécois aurait tout probablement souscrit, aurait recommandé de voter oui à cette question. Et donc, c'est l'occasion manquée, comme pas une autre dans notre histoire, d'avoir eu un rassemblement et une réponse, une majorité très élevée au oui. si on additionne tous les libéraux qui, à cette époque, aspiraient à la souveraineté, à tous les gens qui adhéraient au Parti québécois, nous étions mûrs pour une adhésion au oui à la hauteur de 70-75%. Quelles qu'aient été les suites de ce référendum, elles auraient sans doute abouti à plus de souveraineté pour le Québec, même si elles avaient maintenu une union canadienne, et nous aurions fait un pas en avant. Et c'est toujours ce que je souhaite, comme par exemple dans les autres référendums, surtout celui de 80, où malgré les enthousiasmes délirants dans la jeunesse et dans certains milieux au Québec en faveur du oui, on sentait bien que les choses n'étaient pas mûres. Voilà pourquoi d'ailleurs la question portait sur un mandat de négocier. Bon, si au lieu de ça, on avait eu un référendum portant uniquement sur les aspirations du Québec telles qu'elles étaient exprimées dans le rapport Pépin-Robarts, par exemple, ou d'autres rapports de l'époque, c'est-à-dire de consolider fortement notre autonomie, puis qu'on avait dit oui à ça à 75%, l'effet aurait été plus considérable. C'est pourquoi ce que j'aimerais voir au Québec, c'est qu'un jour nous ayons l'occasion en grande majorité, de nous dire oui à nous-mêmes. Que ce soit une constitution, que ce soit une réforme du fédéralisme ou quoi que ce soit, c'est ça, je pense, qui opérerait un véritable choc, hein? Une volonté exprimée à 75%, ça a toujours des répercussions.
Positives, ça c'est. Ouais. Vous écriviez dans la version des années 80 de « Bilan du nationalisme au Québec » que ce bilan était somme toute positif. 30 ans plus tard, vous dites que le diagnostic est toujours juste, mais vous apportez certaines nuances, notamment au sujet de l'immigration. Est-ce que le bilan est moins positif 30 ans plus tard?
Bien, comme je vous l'ai dit, j'ai des réserves vis-à-vis de ce qu'on appelle la stratégie identitaire et je déplore une sorte de désunion dans le mouvement nationaliste québécois entre ceux, d'une part, qui entretiennent un nationalisme civique et d'autres qui insistent davantage sur un nationalisme reposant sur la majorité historique, comme on dit.
Vous défendez justement l'idée d'un nationalisme civique. Est-ce que ce type de nationalisme, peut-être un peu plus, je sais pas, artificiel, atténue la spécificité québécoise?
Le nationalisme civique, oui, qui est moins chaleureux qu'un nationalisme ethnique, ce sera toujours le cas. Mais par ailleurs, nous ne sommes pas que spécifiques. Il faut bien se présenter dans le monde si nous voulons devenir un pays dialogué avec les autres nations et les autres peuples. Il faut toujours s'inscrire avec une volonté de partage et de dialogue ouvert avec les autres. Autrement dit, nous ne gagnons rien à multiplier indûment nos différences. Nous en avons des différences, elles sont visibles, elles sont claires, nous parlons français, nous sommes de culture française. Le reste, pourquoi pas y aller plus délicatement et pourquoi ne pas exprimer davantage notre volonté de faire les choses correctement, de vivre un véritable pluralisme, comme le font beaucoup d'autres. Nous ne serons pas différents à ces égards-là. Il y a des pluralismes un peu partout dans le monde, mais de le faire à notre façon, en langue française et en valorisant notre culture francophone.
C'est dans cet esprit de modération, M. Balthazar, que je rappelle aux auditeurs, vous êtes l'auteur de « Nouveau bilan du nationalisme au Québec » qui a été publié chez VLB Éditeur cette année. Vous enseignez actuellement à l'Université du troisième âge de l'Université Laval dans la belle ville de Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Je vous en prie, ça a été un grand plaisir.
Merci.
Vous écoutez Nouveau regard sur notre histoire, sur les ondes de Radio Ville-Marie. Au microphone, Éric Lebel. En cette veille de la fête des mères, voici la présentation de la pièce en un acte intitulée « Une dame, un dimanche ». Il s'agit de la rencontre entre une mère et son fils. Le rôle de la mère, Yvette Gouin, mécène et dramaturge, est interprété par nul autre que Jeannine Suteau. Et le rôle du fils sera joué par l'auteur du texte, Olivier Mercier-Gouin.
Le 20 juin 1981, la chambre d'Yvette Gouin au Haddon Hall à Montréal.
Oh, je perds mes culottes.
Olivier entre à son tour.
C'est depuis mon accident, là. Je peux rien supporter qui me serre la taille. Le médecin m'avait dit, vous ne pourrez plus jamais marcher.
Elle fait quelques pas.
Je marche. Et vous ne devez plus avoir d'enfant. Et tu es là. J'ai honte d'être vieillie.
Il l'aide à enlever son manteau. Elle va vers le placard, ouvre la porte et accroche son imperméable sur un cintre.
Je vais mettre ma robe de chambre.
Bon, eh bien, je vais aller voir papa dans sa chambre.
Non. Reste. Je vais me changer dans l'armoire.
Elle entre dans l'armoire et laisse la porte entrebâillée. Olivier sort de la poche intérieure de son veston quelques feuilles de papier.
Qu'est-ce que tu fais ?
J'attends que tu sortes de l'armoire et je relis la divine et le géant.
Ludivine ?
La divine.
Articule. C'est de qui ?
De moi.
Elle sort. Elle est en robe de chambre.
C'est une pièce ?
Ce sera peut-être une pièce ou un texte de radio.
Il est question de Sarah Bernard ?
Oui, et du géant Beaupré.
Oh.
Le moment fort du texte, c'est la rencontre entre Sarah Bernard et le géant Beaupré.
Sarah Bernard et le géant Beaupré se sont rencontrés ?
En 1905 ou 1906, faudrait que je vérifie. Sarah Bernard faisait sa tournée d'adieu aux États-Unis.
Mais comment as-tu découvert ça ?
Au cours d'un séjour à Saint-Louis, dans le Missouri, il y a 2 ans environ. Tu te souviens que je suis allé à Saint-Louis ?
Non.
Mais oui, pendant mes vacances. Mais c'est que je te raconte.
Elle ouvre ses draps, entre dans son lit et s'assoit.
Mais oui, je trouve ça passionnant.
Il s'assoit dans le fauteuil près du lit. J'étais donc à Saint-Louis, un matin de printemps, à la terrasse d'un café. Il faisait un temps magnifique. Et en prenant mon petit déjeuner, je lisais l'Express, l'édition internationale. Un type avec un drôle de chapeau vient s'asseoir à la table voisine de la mienne. Il me dit « Vous êtes français ?» Je réponds « Non, canadien, français, québécois. » Il me demande « Vous avez entendu parler du géant Beaupré ?» Je dis « Oui, bien sûr. Alors, il me demande ce que je fais dans la vie. Je réponds et lui pose la même question.
Et alors ?
Professeur à la retraite. Il n'avait pas l'air d'emmener large. Il avait l'air usé.
Rusé ?
Non, usé. Il me dit, j'ai chez moi quelque chose qui pourrait vous intéresser, je pense. Voulez-vous me suivre ? Je paie mon addition, il paie la sienne et nous partons. En chemin, je me disais que chez lui, il allait peut-être m'assommer pour me voler mes chèques de voyageur. Mais enfin, il faisait beau et il avait su piquer ma curiosité. On arrive, il m'ouvre la porte, c'était sombre. Il passe devant, on descend quelques marches.
C'était un sous-sol ?
Oui, poussiéreux. J'avais à peine mis le pied sur le parquet qu'un chat me saute dessus.
Il avait faim.
Le type lui a donné un peu de lait, puis il m'a prié de m'asseoir dans un grand fauteuil en paille. Je me suis assis.
Et ensuite ?
Le type a sorti de sa poche un trousseau de clés Puis, il est allé à une armoire en bois verni.
Oui, oui, et alors?
Il a fait tourner la clé dans la serrure de la porte de l'armoire et avec beaucoup de précaution, il en a sorti un gros livre, du moins, ce qui m'a semblé un livre.
Mais qu'est-ce que c'était?
Un registre d'hôtel. Le type au drôle de chapeau...
Il ne l'avait pas enlevé?
Non, il le gardait tout le temps. Donc, le type m'explique que son grand-père, d'origine acadienne, avait été gérant ou directeur d'un hôtel de Saint-Louis qui n'existe plus aujourd'hui. Le type...
Mais il n'avait pas de nom?
Je ne me souviens pas de son nom. Donc, il ouvre le registre, je m'approche, et au haut d'une page, il me montre une signature. Sarah Bernard. Et un peu plus bas, un nom de famille... Beaupré. Le prénom n'était pas très lisible. Sarah Bernard et le géant Beaupré se sont rencontrés à Saint-Louis au début du siècle dans un hôtel qui n'existe plus.
Oh, c'est fantastique!
Après ça, le type m'a dit « C'est mon bien le plus précieux, mais j'ai besoin d'argent. Alors si ça vous intéresse, je peux vous vendre ce registre. »
Combien ?
$2,000.
Oh, mais c'est un peu cher.
Ouais, c'est ce que je lui ai dit. Il me l'a offert pour 1,500. Je me suis levé pour partir, alors il m'a dit « Je vous le donne pour $1,000. » J'avais sur moi $1,200 en chèque de voyageur. J'aurais pu téléphoner à ma banque à Montréal et leur demander de m'envoyer de l'argent.
Ah oui, mais c'était peut-être un faux registre.
C'est ce que je me suis dit.
Mais est-ce qu'on peut inventer une histoire pareille?
Voilà la question. Alors, il lui tend un exemplaire du texte. Veux-tu y jeter un coup d'œil?
J'ai toujours rêvé de jouer Sarah Bernard. Allons-y. Mais pour le géant, il faudrait un grand acteur.
On y va. Tu restes assis.
Oui, d'autant plus que je suis très bien dans mon lit.
La suite de Sarah Bernard dans un grand hôtel de Saint-Louis. Assise sur un canapé, la divine se verse une tasse de thé.
Entrez. Oh, c'est vous. On ne vous a pas vu entrer, j'espère.
Ben, vous savez...
Suis-je bête? Vous êtes un homme remarquable. Vous allez bien prendre une tasse de thé.
Vous n'avez rien de plus fort?
Malheureusement, non.
Alors, ça va.
Asseyez-vous, mon cher. Non, asseyez-vous. Oui, dans cette bergère.
Il s'assoit.
Vous vous demandez peut-être pourquoi, dans le plus grand secret, Sarah Bernard a voulu vous rencontrer.
Non.
Ah? Vous êtes au courant?
Oui.
Monsieur Bardom vous a dit?
Oui.
Oh, le bavard! Il a de grands projets pour vous. Une tournée mondial.
Il m'a dit de me fermer la trappe.
De?
Shut your trap.
De vous taire? Enfin, il en parle de cette tournée. Bon, il faut que je vous dise. J'hésite en ce moment entre monter sur une baleine.
Dans l'eau?
Mais non! Sur terre. Une baleine morte. Me faire photographier par le monstre marin. Ou
vous faire photographier avec moi.
Ah, vous avez des raccourcis saisissants.
Des quoi?
Laissez faire, c'est sans importance. Vous êtes Canadien?
Oui.
Français?
Oui.
De la province de Québec, évidemment.
Non, je suis né en Saskatchewan.
Oh, ça s'écrit comment, ça?
Comme ça se prononce.
Ben, vous prononcez pas tellement bien, alors...
Chez nous, madame, on répond pas aux énervés.
Non, ne partez pas. C'est un malentendu. excusez-moi, mais c'est, l'Amérique ne me va pas bien. Tout est trop grand ici, trop vaste. Je me sens perdue dans cette immensité. Alors, asseyez-vous, je vous en prie. Asseyez-vous. Je vous trouve fascinant. Quel âge avez-vous?
20 ans.
Ah, 20 ans. 20 ans, c'est merveilleux. C'est enivrant. Je vous ai menti tout à l'heure.
Elle se lève, va chercher une bouteille et deux verres dans une armoire et dépose les verres sur un guéridon.
Je vous en prie, servez-vous.
Le géant remplit son verre et celui de Sarah.
Merci.
Elle boit une petite gorgée.
Ça vous plairait de faire du théâtre avec moi?
Ben, il faut que je gagne ma croûte.
Mais vous n'avez pas l'air enthousiaste.
Non.
Samson et Dalila. Après la chute du temple dont vous avez ébranlé les colonnes. Je suis debout, contre la seule colonne qui n'est pas tombée. Vous venez me chercher. Vous me prenez dans vos bras puissants. Vous pouvez me soulever.
Maintenant?
Mais non!
D'une seule main, il n'y a pas de problème. Puis ça serait moins forçant que les poids que je lève à la foire de Saint-Louis.
Je vois une maison. Je vois un vert gazon. Répétez après moi.
Je vois une maison. Je vois un vert gazon.
Et là-bas, dans les branches, je vois ta robe blanche.
Et là-bas, dans les branches, je vois ta robe blanche.
Vous avez de l'oreille. Chantez-moi une chanson.
Alouette, gentille alouette, alouette, je t'y plumerai.
Non, 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 pas si fort, là, à mon oreille.
Je t'y plumerai la tête, je t'y plumerai la tête.
Oh non, 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 le folklore, moi, ça m'ennuie. C'est pour les gens simples. Donc, je pourrais faire adopter pour la scène un conte de Perrault. Vous feriez l'ogre, et je serais le petit pousset.
Votre petit bois, là, c'est trop sucré. J'ai mal au cœur.
Eh bien, la salle de bain est au bout du couloir.
Le géant se rend à la salle de bain. Après un moment, on l'entend vomir.
Avez-vous besoin d'aide?
C'est pas nécessaire. Je peux faire ça tout seul. Il revient dans le salon. Madame Bernard, j'ai fait pas mal de dégâts dans votre salle de bain.
Oh, ne vous en faites pas. Je vais appeler le service aux chambres.
Bon, je vais aller prendre l'air. Ça va me faire du bien.
L'eau de vie de cerise ne vous convient pas de toute évidence.
Je sais pas si c'est l'eau de vie ou bien les cerises. Bon, ben j'ai un show dans une heure. Je pense que je vais me rendre à pied. Ça va me faire du bien. Salut. Salut, Madame Bernard.
Dans ses mémoires, Sarah Bernard, elle en parle du géant Beaupré?
Non.
Ah, parce que c'était une rencontre secrète?
Non.
Mais je comprends pas.
L'histoire de Saint-Louis, de Sarah Bernard, du géant Beaupré? C'est pas vrai. Je l'ai inventé.
C'est pas bien de mentir à sa mère.
C'est toi qui m'as appris à raconter une histoire.
Mais pas à mentir.
Non, la manière de raconter une histoire, l'art du raconteur, c'est peut-être aussi vieux que la parole. C'est peut-être de cette façon que le théâtre a commencé. Et puis quand tu m'as dit « j'ai honte d'être vieille », je me suis dit « je vais essayer de lui changer les idées ».
Tu m'as fait marcher. Veux-tu aller me chercher quelque chose dans l'armoire ?
Oui, quoi ?
Une bouteille.
Où est-elle ?
Par terre, au fond.
Voilà, voilà. Tu as des verres ? Yvette indique un tiroir du petit meuble qui est à la tête de son lit.
Dans le tiroir du haut.
Olivier sort deux verres du tiroir, les dépose sur le dessus du meuble et remplit les verres. Yvette fait un geste pour prendre son verre. Tu ne vas pas prendre ça pur ?
Mais non ! Il y a une bouteille d'eau minérale dans le tiroir du bas.
Olivier ouvre le tiroir du bas, sort la bouteille, commence à verser de l'eau dans le verre de sa mère.
Mais stop ! Tu vas le noyer !
Il cesse de verser.
Tu vas aller voir ton père dans sa chambre avant de rentrer chez toi ?
Oui.
À une certaine époque, tu t'entendais pas très bien avec ton père.
Oui, mais maintenant, ça va.
Mais j'étais très inquiète quand tu as fait ta fugue.
J'avais 16 ans et je sortais du collège, comme dit Musset.
Est-ce qu'on t'a mis à la porte du collège Sainte-Marie ?
Après 3 jours, j'en pouvais plus. Je suis parti.
Pourquoi ?
Ça sentait trop mauvais.
C'est la seule raison ?
Mon papa voulait que je devienne avocat, ça ne m'intéressait pas. Tu étais à la campagne, au moment de ma fugue ?
Oui, oui, je pense. Oh, c'est si loin, tout ça. Quand je suis rentrée en ville, je t'ai écrit une lettre, sans savoir où tu étais.
La lettre a été déposée à la pharmacie Cavanaugh-Burnside, si j'ai bonne mémoire. Un copain discret est allé chercher la lettre et me l'a remise. Tu me demandais de revenir à la maison. C'était écrit à l'encre. Certains mots étaient un peu bavés. Tu écrivais... Ce sont mes larmes.
Chez qui étais-tu ? Chez qui te cachais-tu ?
Une comédienne.
Oui !
J'ai promis le secret. Il y va de l'honneur d'une femme.
Bon, dans ce cas, je n'insiste pas. Verse-moi un peu à boire, veux-tu ?
Il verse chichement à boire.
Mais encore un peu. Merci.
J'ai accepté de revenir à la maison à une condition.
Laquelle déjà ?
De pouvoir faire ce que je voulais dans la vie.
Ah oui, c'est vrai.
Et vous avez accepté cette condition, toi et papa ? Quand je suis rentré à la maison, je crois que vous dormiez, ou que vous faisiez semblant de dormir. J'ai écrit sur une feuille de papier, Olivier est rentré, et j'ai glissé la feuille sous la porte de la chambre de papa.
Et si nous avions refusé de te laisser faire ce que tu voulais dans la vie, comment aurais-tu réagi ?
Je serais parti sur un bateau, comme Mousse, à l'aventure. Il se verse à boire. Tu veux une goutte ?
Oui, encore un peu. Merci. Ah, les voyages en mer. Quel souvenir merveilleux. Un soir, je me rappelle, j'étais à bord du Normandie dans la salle à manger.
La plus longue salle à manger flottante au monde.
Oui, oui. J'étais à la table du capitaine.
À sa droite ?
Oui, c'est possible. Oui, en effet. Je me souviens, j'étais à sa droite. Et j'avais une robe blanche vaporeuse, une coiffure en hauteur. J'étais très frisée.
Tu avais apporté ton petit fer?
Mais non, il y avait un coiffeur à bord.
Et un salon de coiffure?
Mais probablement. Nous étions à la fin du repas. On apporte une dépêche à la table. C'était pour moi. J'ouvre. Ton père m'annonçait qu'il avait été nommé président du Canada. Oh. Je montre la dépêche au capitaine. Il se lève, demande le silence, d'une voix forte, annonce la nouvelle, lève son verre et porte un toast à ma santé. Oh. La salle tout entière se lève et chaque convive imite le geste du capitaine. Après avoir déposé leur verre, les passagers se mettent à applaudir d'une manière traditionnelle au début, mais sur un rythme cadencé qui allait en s'amplifiant. C'était comme le bruit que font les vagues de la mer, des vagues qui déferlaient dans cette salle immense. Alors, très vite, sur des chariots, les serveurs ont apporté du champagne, des centaines de bouteilles de champagne. Et puis, l'orchestre a attaqué notre hymne national.
Le Haut-Canada?
Mais non, le God Save the King.
Ah, ils ont bien fait de l'attaquer.
Mais c'était la fête. On m'entourait. On me cajolait, on me félicitait, on m'embrassait. On m'apportait des fleurs. Oh, bientôt, des larmes se sont mises à couler sur mes joues. L'émotion était trop forte. J'avais peine à respirer.
On a ouvert un hublot.
Mais non, les hublots.
Ah.
Et l'air de la mer est entré. Et j'ai pu retrouver mon souffle. Mais j'ai attendu au lendemain pour expliquer aux passagers que mon mari n'avait pas été nommé président d'un pays, mais d'un journal.
La dernière fois que je t'ai entendu raconter cette histoire, il me semble que c'était plus sobre. Il prend la bouteille et va la reporter dans l'armoire.
Oh, il y a de la houle, je me sens un peu étourdie.
Il revient s'asseoir dans le fauteuil.
En tout cas, si je gagne à la loto, je remonte toutes mes pièces.
Cocktail.
Marie-Claire.
Le jeune Dieu.
Un homme.
La réussite.
Le plus bel amour.
Péché de femme. Ensuite, tu as écrit « Portée disparue », n'est-ce pas?
Non. Sous le masque. « Portée disparue », c'est la dernière histoire de Bob des Hôtels, l'aviateur.
Ah, j'ai joué dans cette pièce, moi, au Palais Montcalm, à la fin de la guerre. Oh, un tout petit rôle. J'avais le béguin pour...
Antoinette Giroux.
Non. Jeannine Sutton. Il se lève, va chercher le programme de la pièce sur la table et revient s'asseoir, montrant le programme. Regarde-la avec ses tresses, son air boudeur, à la Simone Simon. Tous les hommes étaient fous de Jeannine.
Elle se rendait compte que toi...
Elle me disait, je pourrais être ta mère.
Ah ben, elle exagérait. Elle aurait pu dire ta sœur, ta grande sœur.
Je me contentais de la regarder. J'avais le temps quand on joue un petit rôle. Je les observais. Antoinette, Monsieur Duquesne, Pierre Dagenais, Marcel Chabrier.
Tu as pensé devenir acteur?
À ce moment-là, oui.
Et alors?
J'avais peur de crever de faim.
Tu es un bourgeois au fond.
Jules Renard disait, les bourgeois, c'est les autres.
Il avait beaucoup d'esprit.
Un jour, il y a bien longtemps de cela, j'arrive à la maison, j'avais les cheveux en broussaille. Tu me regardes et tu me dis, tu as l'air de l'idiot du village. J'ai compris ce jour-là, ou du moins, j'ai compris quelques années plus tard, que nous étions aussi pour toi des personnages d'une distribution. Le père noble, Léon Mercier-Gouin. Les jeunes filles de bonne famille, Lisette et Thérèse. L'idiot du village, votre très humble serviteur. Et enfin, le jeune homme promis un brillant avenir, Lomergouin.
Tu es cruel.
Je te demande pardon.
Après la mort de ton frère, je suis allé travailler en usine, piner de la verge. C'est comme ça qu'on disait dans le temps.
Pour ne pas penser.
Pour ne pas devenir folle. Et puis après, il me semble, ou peut-être avant, je ne sais plus, moi, j'ai fait de la télévision. L'émission s'appelait « Rêve et réalité ». Et c'est Jacques Normand qui en était l'animateur. Il savait que Lomel... Oui, il savait. Il m'a aidé. Il a été très gentil. Je l'aime beaucoup.
Il est de Québec.
Ah, les gens de Québec, tu sais, ils sont formidables.
Olivier se lève, va vers la table à cartes, ouvre l'album de découpure. Véronique a été un triomphe hier soir à l'auditorium.
Mais qu'est-ce que tu racontes, là ?
Véronique a été un triomphe hier soir à l'auditorium.
Tu y étais ?
Non, j'avais un empêchement.
Lequel ?
Je n'étais pas encore né. Véronique, souviens-toi, c'était en 1916.
À Québec.
Il s'assoit dans le fauteuil et lit. Véronique a été un triomphe hier soir à l'auditorium. Cet opéra d'André Messager a été très bien exécuté hier soir en présence d'un auditoire distingué. Le succès de la représentation de Véronique, opéra d'André Messager, donné hier soir à l'auditorium, a dépassé toutes les espérances.
Ah.
Nous croyons refléter...
Refléter.
Il y a un accent sur le « e ».
Bon.
Refléter l'opinion de l'auditoire d'élite qui... encombrait la salle.
Qui encombrait la salle ?
Ben, c'est écrit, tu peux vérifier. Elle jette un coup d'œil.
C'est trop pâle.
Bon. Nous croyons refléter l'opinion de l'auditoire d'élite qui encombrait la salle en disant que l'opéra a été joué à merveille et que les différents rôles ont été remplis avec tout le talent et l'habileté auquel on peut raisonnablement s'attendre de la part des amateurs.
Non, continue.
La soirée était au profit de l'hôpital antituberculeux et elle fut non seulement un succès artistique, mais aussi financier.
Est-ce qu'on parle de moi ?
Un peu de patience. Il serait difficile de dire à qui revient la palme dans l'exécution des principaux rôles de l'œuvre de Messager. Mademoiselle Adrienne Roy, l'Henriette, Mademoiselle Lucette Chauvin, Mademoiselle Yvette Olivier. Voilà.
Mais vas-y.
Mademoiselle Yvette Olivier dans Denise.
Denise.
Il y a un accent sur le...
Ah, encore.
Mademoiselle Yvette Olivier dans Denise n'a fait que continuer la série de brillants succès qu'elle a obtenus depuis quelque temps comme élève du conservatoire Gandry. Mademoiselle Olivier a du talent et elle sait le faire valoir sur la scène, où son jeu excellent et sa diction parfaite lui ont valu des applaudissements mérités.
Je ne dis rien. Je savoure en silence.
Ah tiens, il y a quelque chose qui va t'intéresser. Comme nous l'avons dit plus haut, l'élite de notre société assistait à cette représentation. L'honorable P.E. Leblanc, lieutenant-gouverneur de la province de Québec, et Madame Leblanc, Madame Casgrain, épouse de l'honorable ministre des Postes. Sire Lomergouin.
Mon futur beau-père.
Et les Desgouins, ta future belle-mère, occupait une loge spéciale. Il se lève et va reporter l'album de découpure sur la table à cartes. J'ai l'impression que ta vie tout entière est sur cette table. Des photos de famille, des photos d'artistes, des textes de radio, des conférences, des pièces de théâtre, des programmes de théâtre, des articles de journaux, des notes éparses, des poèmes inédits et ce poème merveilleux que j'aimerais bien avoir écrit.
Lequel ?
Sérénité.
Ah, oui.
Maintenant, j'ai le temps d'écrire, il est triste le temps. Maintenant, j'ai le temps de penser qu'il est long le temps. Hier encore, dans l'heure brève, j'avais le temps de courir, le temps de chanter. Aujourd'hui, il me reste le rêve.
Mais le temps m'est compté.
Bon. Bon, eh bien, je vais aller voir papa maintenant.
Veux-tu fermer les rideaux, s'il te plaît? La lumière me fait mal aux yeux.
Il ferme les rideaux, puis va vers sa mère. Veux-tu que j'éteigne?
Oui.
Il éteint la petite lampe, puis embrasse sa mère sur le front. Repose-toi bien, maman. À dimanche prochain.
C'est ça. À dimanche, mon fils.
M'accompagne des jours gris est parti en voyage. Elle m'écrit et me parle de la vie, de t'engage. Sa lettre est fort jolie, mais elle n'a qu'une page. L'encre est un peu pâlie, m'accompagne des jours gris.
En cette veille de la fête des mères, vous avez entendu la pièce en un acte intitulée « Une dame, un dimanche », la rencontre entre une mère et son fils. Le rôle de la mère, Yvette Gouin, était interprété par Janine Suteau. Quant à Olivier Mercier-Gouin, l'auteur du texte, il jouait son propre rôle, celui du fils, dans cette pièce en un acte. Janine Suteau, nous tenons à le rappeler, fêtait le 20 avril dernier son 93e anniversaire de naissance et a reçu aujourd'hui même le prix du gouverneur général dans la catégorie « Art-spectacle ». Nous lui offrons nos plus sincères félicitations pour ce prix et l'ensemble de sa carrière qui a marqué plusieurs générations de Québécois et de Québécoises. Merci Janine Suteau pour tant de générosité, pour tant de bonheur. Ainsi s'achève cette émission. Nous espérons que vous y avez trouvé plaisir et enseignement. Nous vous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site Internet de la Société historique de Montréal au www.sociétéhistoriquedemontréal.org en un mot et sans accent. Nouveau regard sur notre histoire est une réalisation de Jean-Charles Désiel. À la prise de son, Gilles Poirier. En cette veille de la fête des mères, toute l'équipe se joint à moi pour souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans du Québec. Ici Éric Lebel qui vous souhaite une bonne fin de semaine et vous invite samedi prochain 18h à un autre rendez-vous avec notre histoire et nos racines.
Thank you.